9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain aura lieu le procès du cardinal de Lyon, Philippe Barbarin, pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineur. Il est accusé d'avoir caché à la justice le passé pédocriminel d'un prêtre de son diocèse. Mon premier invité sera la directrice de Témoignages chrétiens, Christine Pelletti, une femme en colère qui interpelle les autorités religieuses dans un livre coup de poing « Qu'avez-vous fait de Jésus ?». Demain, vous découvrirez au cinéma Les Invisibles, des femmes de la rue, drôles et attachantes, héroïnes de cette comédie sociale au milieu de vraies actrices comme Noémie Lvovsky, qui sera avec nous, aux côtés du réalisateur Louis-Julien Petit. Au générique également, Olivier Duhamel, l'homme de Médiapolis, qui raconte le roman vrai de sa famille et de ses parents, Colette et Jacques, le livre paraît chez Plon, Jacques Duhamel, ministre de la Culture sous Pompidou. Et puis Alexis Michalik qui passe enfin au cinéma. Il y adapte sa pièce à succès Edmond, l'histoire de l'invention de Cyrano par Edmond Rostand. Le film sort mercredi prochain. Voilà le sommaire. Avant tout cela, une pensée et quelques notes de musique pour se souvenir d'un pianiste exceptionnel, hors norme, à tout point de vue, Michel Petrucciani, qui du haut de ses 99 cm, prisonnier de son handicap et de sa fragilité osseuse, avait su inventer la musique la plus libre qui soit. Looking Up, l'un des standards de Michel Petrucciani, enregistré ici en public à Francfort en 97. Petrucciani disparu il y a 20 ans, exactement le 6 janvier 99. Il n'avait que 36 ans.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
L'Église catholique face à ses démons, face aux crimes pédophiles commis par certains de ses prêtres, quelle est la responsabilité de la hiérarchie? Demain, lundi, la justice aura à en débattre. Le tribunal correctionnel de Lyon jugera le cardinal-archevêque Philippe Barbarin et 5 anciens membres de son diocèse pour ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts entre 86 et 91 par le père Bernard Prena. Monseigneur Barbarin, qui a reconnu des erreurs et demandé pardon aux victimes, mais à l'approche de son procès, voici ce qu'il disait en novembre dernier à Radio Notre-Dame.
Ce n'est qu'un seul juge qui est le Seigneur, quoi. Donc mon problème, c'est si il y a quelque chose de grave que j'ai fait, qu'on me le montre. Donc moi, je suis coupable de tous les péchés du monde. Expliquez-moi lesquels. Depuis que je suis évêque, ça m'est arrivé 2 fois de tomber sur un cas d'un prêtre comme ça. La première, c'était en 2006. J'ai arrêté le prêtre à la seconde. Alors le problème, c'était que fait-on avec des cas très très anciens pour lesquels il n'y avait pas eu de plainte? Moi, je n'avais jamais rencontré de victime. Et enfin, il y en a une qui est venue me parler. Je lui ai une très grande reconnaissance. Dès que j'ai reçu ça, je l'ai envoyé à Rome. Dès que j'ai reçu la réponse, je lui ai transmis la réponse. Et donc, j'ai mis en œuvre ce qui m'avait été dit par Rome.
Je n'ai fait que ce qui m'a été dit par Rome, dit le cardinal de Lyon. Bonjour Christine Pelletti.
Bonjour Patrick Cohen.
Que pensez-vous de ces propos, de cette façon de s'abriter derrière les consignes du Vatican?
En fait, c'est très explicite. C'est-à-dire que, à croire que Philippe Barbarin est citoyen de Rome, c'est-à-dire jusqu'à plus d'un plein informé, il est citoyen français, et donc c'est à la justice française qu'il aurait dû s'adresser. Je trouve ça incroyable. Et ça met en lumière le fait qu'ils n'ont encore rien compris. En tous les cas, Philippe Barbarin n'a rien compris. C'est-à-dire, c'est pas à lui de juger si cette affaire doit être dans les mains de Rome. Oui. C'est une affaire très ancienne.
Il évoque la justice de Dieu, comme le font souvent.
Oui, alors, je n'ai qu'un seul juge, c'est la justice de Dieu. Enfin, oui. C'est bien joli, ça. Mais je veux dire, il y a des vrais crimes, il y a des vraies victimes. Et donc, en fait, il y a une justice des hommes. Et la justice de Dieu passe, enfin, elle a un autre champ d'application. Oui. Il y a d'abord la justice des hommes.
Mais ces consignes du Vatican, elles existent bel et bien dans votre livre. Qu'avez-vous fait de Jésus? Vous reproduisez une parole accablante. Il s'agit de l'affaire Pierre Piquant, l'évêque de Bayeux, premier évêque français poursuivi pour non-dénonciation. Il est condamné en 2001 à 3 mois de prison avec sursis. Et juste après son procès, le cardinal Castrillon Hoyos, préfet de la Congrégation pour le clergé, personnage important de la curie romaine.
C'est-à-dire le patron de Piquant. Hein.
Oui. Il lui écrit pour le féliciter.
Oui. En lui disant, vous avez bien fait. Et vous êtes l'honneur de l'Église de ne pas avoir dénoncé ce prêtre.
Vous êtes l'évêque. Je me réjouis d'avoir un confrère qui aura préféré la prison plutôt que de dénoncer son fils prêtre.
Voilà. Et les victimes, c'était pas les fils de l'évêque. Ouais. Enfin, c'est, on mais est dans une, on est dans un système délirant. C'est
parce ce que, parce que vous le soulignez, il y a la symbolique de la paternité dans oui. le système hiérarchique.
Oui. Alors déjà, catholique. C'est quand même incroyable parce que je veux dire, tous les psychanalystes nous le disent, même la psychanalyste de Bazard le dit. Le père, c'est celui qui dit la loi dans une famille. Si l'évêque se considère comme le père de ses prêtres, il doit au moins leur dire la loi. Alors si en plus ce sont des pères laxistes, abusifs, pervers, c'est quand même dramatique. Ensuite, sur cette symbolique du père, il y aurait beaucoup à dire, parce que l'évêque est le père de ses prêtres, le prêtre est le père des enfants qu'on lui confie, et tout ça, ce sont des paternités perverses. Enfin, il faut arrêter. Le christianisme, c'est ce que je dis, c'est une fraternité. Ce n'est pas un système de paternité. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu.
Oui, oui, c'est un esprit de corps. Et puis il y a une forme de confusion des fautes ou des valeurs. C'est-à-dire que l'Église, selon vous, Christine Pedotti, traite ces abus sexuels non pas comme des crimes, mais comme des péchés dont les coupables sont parfois considérés comme des victimes du diable. Ça avait été dit par l'un oui. des prédécesseurs de Barbarin,
oui,
Albert
tout à fait,
de Courtrai.
Parce que l'affaire Prena, dont on parlera demain, en fait, elle court sur 4 cardinaux archevêques, dont le premier était le cardinal de Courtrai, qui était un homme... c'est d'ailleurs ça qui est impressionnant. Le cardinal de Courtrai était un homme estimable à de multiples points de vue. Et néanmoins, quand en fait il apprend l'affaire Prena, il dit « cet homme est victime du diable, je vais m'en occuper ». C'est-à-dire qu'en fait, il considère que la victime, c'est le prédateur, parce qu'il serait victime du diable. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on a recours aux armes dont on doit avoir recours contre le diable en régime catholique. Donc, on fait des prières, des bénédictions, je ne sais pas, on distribue de l'eau bénite, que sais-je. Mais c'est pas... On a négligé dans cette affaire les véritables victimes, qui sont les enfants.
Et il y a quelques mois encore, l'évêque de Saint-Étienne oui. a fait réunir la victime et son bourreau, en quelque sorte, c'est-à-dire un prêtre abusé par un autre prêtre.
Oui, mais ça semble assez naturel à cet évêque-là. Il a un prêtre abusé par un prêtre abuseur, et il les met tous les deux sous le même toit, comptant sans doute, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, qu'ils vont se rencontrer... et que le coupable va demander pardon à la victime, et que la victime va lui accorder son pardon, puis qu'on va prendre une grande éponge, et qu'on va tout effacer.
Le pardon, c'est une valeur chrétienne essentielle.
Mais c'est une très belle valeur. Mais le pardon, ça ne fonctionne pas par obligation, par invocation. C'est une vertu de sainteté, le pardon. Et puis le pardon, ça ne passe pas avant la justice. Je veux dire, on pardonne quand la justice est faite.
Christine Pedotti, directeur de témoignages chrétiens, théologienne, essayiste, auteur de « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» chez Albin Michel, et qui pense que vous pensez que le mal est plus profond que les crimes ou les erreurs de quelques hommes. C'est un système et une culture. Vous nous direz pourquoi dans un instant.
Europe 1.
Chaque dimanche, vous retrouvez « C'est arrivé demain » avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Et avec Christine Pedotti, chrétienne en colère, qui signe « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» chez Albin Michel, livre adressé aux responsables de l'Église catholique à la veille du procès Barbarin, une affaire dont on n'a pas fini de parler puisqu'elle fera l'objet d'un film signé François Ozon et qui sortira le 20 février.
Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois par hasard que le père Prena est revenu sur la région de Lyon, comme avant.
Il t'a vu?
Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants?
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites.
Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre.
Je vais être clair avec vous, le père Prena restera toujours prêtre.
Extrait de la bande-annonce de « Grâce à Dieu », film de François Ozon à venir dans un mois et demi. Et ce titre, « Grâce à Dieu », eh bien, il sort de la bouche de Mgr Barbarin dans une phrase que les victimes du père Prena lui ont beaucoup reproché.
Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera.
Les faits sont prescrits grâce à Dieu. Christine Pelletier, est-ce qu'on ne peut pas plaider la simple maladresse d'expression?
Ah, je crois que c'est l'inconscient qui parle. Et c'est son inconscient ecclésiastique, clérical. C'est ça le problème. C'est qu'au fond, ces hommes-là, cardinal Barbarin le premier, ne sont pas des mauvaises personnes. Il faut imaginer que, en plus, ils sont devenus prêtres à l'origine parce qu'ils voulaient donner leur vie. Enfin, y a quelque chose d'une grande générosité à l'origine de leur engagement.
Alors pourquoi ce gâchis?
Moi, j'ai des tas d'amis qui sont évêques et en fait, ils sont détruits par le système.
Et c'est quoi le système ?
Ben, c'est un système, c'est ce que le pape appelle le cléricalisme. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'en fait, ils sont mis à part, qu'ils ne sont plus tout à fait de la même chair que vous et moi, et qu'en en fait, ils ont une relation plus directe avec Dieu. Il y a même des choses extraordinaires, parce qu'on dit qu'ils sont des autres Christ. C'est pour ça que je leur demande, qu'avez-vous fait de Jésus, Jésus-Christ ? C'est-à-dire, comme si eux-mêmes, ils devenaient un peu comme le Christ, un peu comme Dieu. Mais il faut être saint. S-A-I-N-T, pour quand on vous dit que vous êtes Dieu, comme Dieu, vous restez saint, S-A-I-N.
Donc il faut remettre les prêtres à et leur... les prélats au milieu des hommes.
Il faut les remettre à leur place, c'est-à-dire au milieu de nous.
Au milieu de nous. Est-ce que le célibat des prêtres est en cause, selon vous, Christine Pelletti ?
Aujourd'hui, il me semble que vivre au milieu d'une famille, se faire bousculer par ses enfants, ça permet de remettre un peu les pieds sur la terre. Donc c'est une première chose. En plus, c'est quand même un système, je me permets de dire, où il n'y a pas beaucoup de femmes. Ça peut rendre service aussi qu'il y ait des femmes dans un monde. Ça rend les choses plus équilibrées. Elles peuvent dire aux hommes, ça suffit, tu dis n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a ce drôle de système où on est entre hommes célibataires, protégés des femmes, dans lequel on vit comme des anges, comme si on n'avait pas de sexualité. Ça pose des graves problèmes et on voit où ça les amène.
Alors, tout de même, il y a des réactions, une réaction. Les évêques de France mettent en place une commission d'enquête, la commission Sauvé.
On leur a peut-être un peu forcé la main, quand même.
Oui, bah, sous la pression, évidemment, de la justice, de l'opinion publique, etc. Une cellule permanente pour les victimes, une messagerie. Le pape François convoque en février, d'ailleurs, ce sera juste au moment de la sortie du film de François Ozon, il ne l'a sans doute pas fait exprès, les présidents des conférences épiscopales sur le sujet de la protection des mineurs. Il y a au minimum une prise de conscience et une prise en compte de la gravité du problème, non ?
Alors, oui, clairement, ils essaient de faire en sorte de circonscrire le problème, parce que moi, ce que je dis, c'est que ce problème est le symptôme d'un problème plus large. Si c'est moi qui ai raison, ça ne va pas suffire. Si j'ai tort, je pense qu'en effet, ils essaient de faire ce qu'il faut pour que, grosso modo, on ait plus ce genre de choses. Puis il faut dire une chose aussi terrible, c'est comme il y a moins de prêtres et moins d'enfants, statistiquement, il y aura moins de cas. Donc, à terme, ils auront raison. Mais je veux dire, leur problème, ce n'est pas de se sauver eux, ce n'est pas de sauver les prêtres et les évêques. Je veux dire, c'est qu'ils sont là pour dire une chose qui, moi, me tient à cœur, qui est l'Évangile, qui est une fraternité entre les gens, une façon de vivre dans une forme de bienveillance, de croire que les hommes et les femmes sont capables du meilleur. C'est ça qu'ils ont à nous annoncer. Et qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? C'est pas ça. Qui les croit ? Aujourd'hui, qui les croit ? C'est ça le problème. Ils ont un message formidable à annoncer. Et ils sont dans une situation où plus personne ne les croit.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'immédiat, Christine Pelletti ?
Écoutez, le pape les réunit, ils vont faire des choses. En tous les cas, je pense que l'Église, à travers les temps, à travers les siècles, a toujours réagi en essayant d'avoir des prêtres de plus en plus saints, de plus en plus séparés, de plus en plus purs. Et dans cet idéal de pureté, elle les a vraiment séparés du reste du monde. Elle a un problème, elle n'arrive plus à en recruter. Il faut déjà qu'elle se pose cette question-là. Donc, il faut décléricaliser l'Église. Comment on fait ? On recrute d'autres prêtres, peut-être des gens qui font plus ça à temps plein. Après tout, pourquoi pas, hein ? C'est pas, y a pas nécessité pour être un homme ou une femme qui annonce l'Évangile. D'en faire un job à temps plein. Les maires des petits villages, ils font très bien le boulot de maire et d'attention sur leur week-end. On peut dédier une partie de sa vie à ça. Évidemment, des hommes, des femmes, on va dire « Ah, elle revient avec ses histoires de femmes ». Bah oui, ça irait quand même mieux s'il y avait des hommes et des femmes.
Christine Pelletti, qu'avez-vous fait de Jésus chez Albin Michel ? Merci à vous d'être venu nous en parler.
Europe 1.
Dans un instant, Olivier Duhamel, oui, notre Olivier Duhamel, nous parle de ses parents, Colette et Jacques.
Europe 1.
La suite de C'est arrivé demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
C'est arrivé demain, nous sommes bien dimanche et pas samedi, jour traditionnel de Mediapolis et d'Olivier Duhamel. Je le dis pour vous qui nous écoutez et qui un bref instant pourriez vous dire, mais quel jour sommes-nous ? Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Colette et Jacques, c'est le livre qui sortira dans quelques jours chez Plon, c'est écrit roman. Mais c'est le roman de votre famille et de vos parents, Colette, qui fut éditrice à la Table Ronde, puis chez Gallimard, Jacques. C'est Jacques Duhamel, résistant à 17 ans, conseiller d'Edgar Faure, figure du centrisme rallié à Pompidou, considéré comme un grand ministre de la culture, même s'il n'est resté que 2 ans en poste, disparu prématurément à l'âge de 52 ans. C'est la première fois que vous écrivez autre chose qu'un texte purement politique, Olivier Duhamel.
Oui, enfin politique, oui, j'ai absolument, c'est aussi la première fois que j'ai le trac en venant à la radio. Politique, non, même plus que ça, je veux dire, c'est la première, j'ai écrit des textes universitaires au sens large, des manuels, j'ai participé à des dictionnaires, j'ai écrit des essais, mais c'est la première fois que j'écris un roman vrai, même s'il y a énormément de choses qui sont strictement exactes et d'autres qui sont plus ou moins fictionnées, et c'est totalement différent, si vous voulez, c'est... je vous donne juste un exemple. Quand je dois écrire un article pour une revue ou une participation à un colloque, mon jeu, depuis quelque temps, c'est d'essayer de battre mon record de vitesse. Combien j'arrive à écrire de signes à l'heure, hein. Et là, j'ai un record qui est à peu près 7000 signes en une heure.
Ah, bon. C'est pas mal.
Ouais. Mais quand on s'entraîne... Ouais. Quand j'écris, là, pour ce livre, et après, si je continue, j'essaye de battre mon record de lenteur. Ouais. Et à l'heure actuelle, j'ai... 4 heures pour écrire 4 lignes.
Oui.
Ben, voilà. Alors, il faut dire. C'est pas la même chose du tout, du tout, du tout.
Il faut dire que Colette et Jacques Duhamel, c'est une histoire très, très romanesque qui est racontée avec un luxe de détails incroyable, au point qu'on se demande souvent quelle est la part de vérité et la part de légende. Parce qu'il y a des légendes qui courent, vous le savez, dans toutes les familles. Et on se demande si, comme dans L'homme qui tue à Liberty Valence, si la légende est plus belle que la réalité, vous n'avez pas choisi d'imprimer la légende, Olivier Duhamel.
Écoutez, je ne sais pas vraiment en vérité.
Alors, je vais vous donner quelques exemples.
Allez-y.
Votre grand-père, dès les premières pages, votre grand-père humilié au Quai d'Orsay, qui est sur le point d'intégrer le corps diplomatique, et qui démissionne sur le champ. C'est véridique.
Oui, c'est vrai. Oui, absolument, c'est vrai. Parce que, écoutez, il avait fait la guerre de 14-18. On lui dit, il était mutilé de la guerre. On lui dit, vous avez été reçu bien qu'infirme.
Ouais.
Il dit, je fais partie du corps diplomatique. On lui dit, oui. Il dit, dans ce cas-là, c'était ma démission. Et il part en claquant la porte. Non seulement c'est vrai, mais imaginez-vous, moi, môme, la première fois où j'entends parler de cette histoire, c'est assez structurant, on va dire.
1942, Jacques Duhamel, votre père est emprisonné à Fresnes. Il a été arrêté au métro Jussieu. Avec des tracts de la résistance. Jean Luchaire, collaborateur notoire, il sera fusillé à la Libération. Mais c'est un ami de la famille. Jean Luchaire appelle sa mère, Hélène, donc votre grand-mère. J'appelle tout de suite le maréchal. Et Hélène lui répond.
Je préfère le savoir emprisonné par les Allemands que libéré par vous.
Extraordinaire.
Alors, bon, d'abord, vous allez arrêter ça, parce que je ne vais pas
dire
à chaque fois...
Non, mais je donne quelques
alors,
exemples.
Écoutez,
voilà,
parce... Alors, arrêter à Jussieu, j'en sais rien, par exemple. Vous voyez ?
Ah oui.
Le tract, j'en sais rien.
Ah bon ?
Vous voyez ça, parce que de la résistance de mon père, je savais très peu de choses. Donc, en effet, j'ai créé les personnages de son groupe de résistance, leurs discussions, c'est très probablement vrai, ça s'est très probablement passé, mais probablement pas avec ces mots littéralement, c'est pour ça que c'était pas en italique, les citations en italique sont véridiques, les autres sont de fiction. Mais en revanche, oui, bien sûr, le coup de fil, c'est vrai. C'est les choses les plus dramatiques que je raconte, celles-là, je ne les ai pas inventées. Quelque part, je ne me serais pas permis. Quand il y a eu des... Vous venez d'en évoquer deux, il y en a d'autres. Quand il y a eu des moments dans la traversée de la vie de mon père ou de ma mère ou d'eux ensemble, profondément dramatiques, c'est plus qu'il n'en faut. Je veux dire, je n'allais pas en plus en rajouter et en inventer.
Toujours à propos d'occupation et de collaboration, Jacques Duhamel, proche conseiller d'Edgar Faure, alors ministre de la Justice, apprend que celui-ci va rendre un avis favorable à une grâce de Charles Maurras. Et il lui écrit... une lettre de démission, alors celle-là, elle est en italique, donc elle est vraie, une lettre que je n'ai jamais vue signée par un simple conseiller ministériel.
Ah oui, alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai un ami qui est un haut fonctionnaire, qui connaît beaucoup de monde, qui savait que j'étais en train d'écrire ce roman, et il a retrouvé cette lettre. Et il me l'a donnée, et j'ai découvert cette lettre. Jamais mon père m'avait raconté ça. Et en effet, et en plus, il a 28 ans, quoi. D'abord, il est très 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 jeune, il est déjà conseiller d'un ministre important.
Et très culotté,
Et voilà, et il écrit une très belle lettre de 2 pages donnant sa démission. Tellement que Edgar Faure, du coup, alors là je reconstitue, je sais que finalement la démission n'a pas eu lieu, et que 2 mois après, Edgar Faure, ou 3, tombe, le gouvernement...
Et que Maurras n'a pas été gracié.
Voilà, et donc le truc c'est qu'Edgar Faure a dû mettre ça sous la pile en disant « Oh là là, je vais pas me fâcher avec Jacques pour ça ».
Oui, c'est le dramaturge, c'est Jean Anouilh qui vient le trouver pour le convaincre de gracier Maurras. Et puis il y a eu, ça c'est notoire aussi, le Jacques Duhamel, ministre de la Culture de 71 à 73, qui mit fin à la, à la censure politique en autorisant Français, si vous saviez, le film de Harry Cécelouis et qui mit sa démission dans la balance face à Pompidou, vous le racontez. Puis plus anecdotique, mais très amusant, la nomination de Jack Lang à la tête du théâtre de Chaillot. Jack Lang alors très à gauche, ce qui donne le dialogue que vous rapportez entre Pompidou et Jacques Duhamel.
Oui, c'est même Jack Lang qui me l'a raconté, pour tout vous dire.
Ah ben voilà.
C'est que bon, Jack Lang, il était vraiment très, 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 très à gauche. Hein. C'était, ouais. C'était les artistes quasi-gauchistes du festival
des années 60, oui, bien 60, sûr. Etc.
Mais il était extraordinairement talentueux. Mon père l'avait repéré, jeune et tout. Et donc, en même temps qu'il va nommer à Villeurbanne nouvelle génération de metteurs en scène aussi très à gauche, au théâtre de Chaillot, il nomme Lang. Et alors, Pompidou lui dit, mais il est quoi politiquement votre Lang? Et mon père répond, il est très radical. Et Pompidou comprend radical socialiste et se dit, ah bon, ça va très bien. Et mon père ne lève pas l'ambiguïté parce qu'évidemment, ça aurait été fâcheux et après, c'est trop tard.
Ce qui a fondé, et on le sent presque à chaque page, ce livre, Olivier Duhamel, c'est l'admiration. C'est un livre d'admiration pour vos
sûr,
parents.
Bien sûr, mais... C'est pas... Qu'est-ce qui m'a fait écrire, si vous voulez, c'est très étrange. Qu'est-ce qui... J'adore écrire depuis toujours, mais oser écrire un livre où on écrit roman sur la couverture, c'est pas la même chose. En vérité, c'était très peu de temps après la femme avec qui j'ai vécu 35 ans, qui venait de disparaître de façon très abrupte. Et je me suis jeté dans cette écriture comme dans une thérapie. Il n'y avait pas d'intention particulière. Oui, il y avait l'envie d'écrire, il y avait l'envie d'utiliser ce que je savais de la grande histoire politique, parce que c'est quand même mon métier de base. Ce que j'avais appris, et puis en travaillant un peu plus de l'histoire dans le monde de l'édition, en enquêtant, en interviewant des gens, et l'histoire de mes parents. Et à l'arrivée, je m'aperçois qu'en effet, beaucoup de gens le disent, et donc c'est sûrement vrai, c'est un très bel hommage à ces gens assez formidables, mais c'était pas, je me suis pas dit, ah, je vais écrire un livre à la gloire de mes parents, non.
Mais
c'est pas le point de départ.
Mais de fait, ça l'est, même si vous ne masquez pas les difficultés, les vicissitudes, et puis vous racontez avec beaucoup d'émotion et de pudeur la mort de Jérôme, votre frère jeune.
Par une batterie de voiture.
Voilà, un accident de la route. Et votre père qui doit quitter. J'ai appris, par exemple, je savais qu'il est mort de maladie, mais je ne savais pas que. Il avait déjà ministre, il devait vivre avec cette maladie dont il ne savait pas comment elle pourrait évoluer.
Et il y a même ce moment terrible où Pompidou lui demande de rester et où il répond je ne peux pas, c'est une question de dignité. Et à ce moment-là, quand il dit ça, mon père ne sait pas que Pompidou est gravement malade.
Colette et Jacques, ça paraît dans quelques jours. Chez Plon, merci beaucoup Olivier Duhamel.
Merci à vous Patrick.
Dans un instant, on parle des Invisibles, comédie sociale de Louis-Julien Petit avec Noémie Lovski, nos invités. Dans un instant, ça parle d'un centre d'accueil pour femmes SDF.
Europe 1. Vous êtes avec Patrick Cohen jusqu'à 10h, bien sûr, comme tous les dimanches avec C'est arrivé demain. Je vous retiens quelques secondes pour vous dire que vous rappelez bien sûr que vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Vous pouvez soit nous appeler au 3921, 50 centimes la minute, soit nous laisser un message sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Europe 1 ou alors sur notre site europe1.fr. Patrick Cohen revient dans quelques secondes.
Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour Patrick Cohen.
Le voici enfin, cet Edmond au cinéma. Enfin, parce que c'est une idée, un projet que vous portez depuis longtemps. Edmond, je rappelle que c'est Edmond Rostand, soit l'auteur du plus grand succès de toute l'histoire du théâtre français, Cyrano de Bergerac. Et vous en avez fait l'un des plus grands succès de cette dernière décennie. Combien de spectateurs ont déjà acclamé votre Edmond au théâtre?
Au théâtre, c'est difficile de compter, mais je pense plus de 600 000 à mon avis. Là.
Plus de 600 000, c'est-à-dire plus d'audience que pour beaucoup de films.
Pour certains, la plupart. Mais bon, ouais. La plupart des films, c'est des films d'auteur aussi, donc c'est normal.
Voilà, avec les récompenses qui vont avec, 5 Molières, et maintenant une carrière internationale, puisque la pièce a été traduite en anglais.
Oui, oui, elle va se monter en mars à Birmingham, et puis ensuite à Londres, j'espère.
Et j'ai vu que le titre avait changé, Edmond de Bergerac, c'est ça?
Edmond de Bergerac.
Très bien. Alors, pour ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ne l'ont pas vu ou pas encore vu, comment en parler comme d'une fantaisie historique et théâtrale?
Oui, je pense que c'est une comédie avant tout, déjà. C'est un film populaire aussi. C'est un film qui ne s'adresse pas du tout qu'aux amateurs de théâtre, puisque le but, c'est justement de convaincre tous ceux qui ne seraient pas allés voir la pièce et qui, en se disant « bah non, moi, je ne vais pas au théâtre », et de les convaincre non seulement que le sujet peut les intéresser, la création de Cyrano, mais aussi que le théâtre peut les intéresser. Qui sait ?
Alors, je disais fantaisie parce que c'est drôle et rythmé, mais aussi parce que vous prenez des libertés par rapport à la vraie histoire de l'écriture de Cyrano. Vous imaginez notamment Edmond Rostand devant écrire sa pièce de toute urgence, épuisant son inspiration dans des scènes dont il est le témoin, comme avec ce patron de café noir confronté à un client raciste.
Quoi ? J'appelle un chat, et un nègre, un nègre.
Nègre. C'est tout ? C'est un peu court, monsieur. Vous auriez pu dire, voyons, tel un géographe africain, antillais, créole, tel un peintre marron, mélanoderme, morico, ou tout simplement noir. Si vous aviez eu la sobriété, l'élégance ou le vocabulaire qu'un homme entrant dans mon café se doit d'avoir, ne l'ayant pas, je me vois par conséquent dans l'obligation de vous inviter la porte.
Pour qui se prend ?
C'est écrit juste au-dessus, si toutefois vous savez lire.
Voilà, et la salle de bistrot qui applaudit comme dans un théâtre. Voilà,
c'était Jean-Michel Martial qui joue Monsieur Honoré, qui est le cafetier et qui est également le créateur du rôle au théâtre.
Voilà, et c'est l'un des seuls ou le seul
c'est
à le avoir seul. Joué dans Edmond au
c'est
théâtre puis au cinéma.
Ouais, tout simplement parce qu'il avait un alternant, lui, à ce moment-là, alors que tous les autres étaient en tournée. Et donc, c'est le seul qui a pu se faire remplacer pour venir tourner.
Et il est
formidable.
Remarquable. Je le disais, votre envie première pour Edmond, c'était d'en faire un film. Le théâtre est venu par hasard parce que vous ne trouviez pas le financement du cinéma. Alors là, cette fois, qu'avez-vous cherché à faire, Alexis Michalik ? Est-ce que le film aurait été le même sans le succès de la pièce ?
Je ne suis pas sûr qu'il aurait été le même. Ce n'est pas tant une question de succès. Déjà, je pense qu'il n'aurait pas existé sans le succès de la pièce.
Oui.
Et ensuite, la pièce m'a permis de tester tout, en fait. Mais ce qui est très marrant, c'est que ce scénario que je développais, au moment où je l'ai adapté au théâtre, je me suis rendu compte de beaucoup de ses défauts. Je me suis dit, mais c'est bizarre cette fin-là, ça ne va pas, il faut que ça accélère, il faut qu'on resserre sur le triangle amoureux. Et le passage par le théâtre a permis justement de le confronter à un public. Et quel meilleur juge qu'un public de théâtre, parce que si ça rit, on garde la blague, et puis si ça rit pas, on essaie de trouver une meilleure blague, quoi. Donc, grâce au théâtre, le film n'en est que meilleur, j'espère.
On va écouter un autre extrait de votre film. J'ai choisi une scène écrite comme pour un vaudeville, comme pour du Feydeau, avec justement le personnage de Georges Feydeau, incarné par un certain Alexis Michalik.
Je suis Georges Feydeau.
C'est une maison sérieuse ici, monsieur.
Sans doute, et je suis très sérieux.
Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur.
Eh bien, je vous le dis, je suis Georges Feydeau.
Vous n'êtes pas Georges Feydeau.
Mais si.
Mais non.
Mais si.
Mais non.
Bon, enfin, c'est insensé, puisque je vous dis que je suis Georges Feydeau.
Non, monsieur, non.
Mais qui voulez-vous que je sois ?
Je ne sais pas, monsieur. Mais ce que je sais, c'est que Georges Feydeau est dans la chambre de mademoiselle Dalcy depuis au moins 10 minutes.
Plaît-il ?
Et d'ailleurs, le voilà, Georges Feydeau.
Edmond ?
Mais qu'est-ce que vous fichez là ?
Mon histoire. Monsieur, le chemin de la gare, s'il vous plaît. Pas grave, je trouverai.
Edmond !
Volny ?
Ah, Georges, dis-moi, tu n'as pas vu Edmond ?
Il vient de sortir.
Parfait. Il t'a dit où il allait ?
À la gare.
Merci bien, bonne soirée à toi.
Et où ?
Jeanne ?
Monsieur Feydeau.
Pourquoi n'êtes-vous pas au théâtre ?
Pardon, je me suis assoupie.
Assoupie ? Mais avec qui ?
Je remonte me changer.
Serait-il déplacé de vous demander un autographe ?
Bien sûr.
Voilà, alors je vais citer les acteurs. Mark City, oh oui, qui joue le réceptionniste, Thomas Oliveres, qui joue Rostand, Tom Leb, Lucie Boujna et Alexis Michalik.
Oui.
Le plaisir de jouer
Bien sûr, on refuse pas ce petit plaisir. Voilà, la question c'était qu'est-ce que j'allais faire ? Est-ce que j'allais faire Tchekhov ? Est-ce que j'allais faire Feydeau ? Bon, finalement, ça a été Feydeau.
Voilà.
Bon, déjà dans le film, c'est un peu un connard sympathique. Hein.
Ah oui, oui.
Bon, mais c'est une tête à claque, quoi. Déjà, j'adore jouer les têtes à claque. Dans la vie, il était beaucoup plus sympa, le Feydeau. Ouais. Hein. Il était vraiment bienveillant avec ses amis auteurs, etc. Mais il fallait l'incarnation d'un espèce de winner insupportable du théâtre. Qui c'est l'auteur star à ce moment-là ? C'est Feydeau, quoi.
Alors, on vient d'entendre la vivacité de cette scène. Vous avez travaillé particulièrement sur le rythme, Alexis Michalik ?
Oui, le rythme, c'est mon obsession. Je suis un fou du rythme et mes acteurs entendent, quand ils vont trop lentement, ce bruit. C'est mes doigts qui claquent et ça veut juste dire qu'il faut aller plus vite.
Il faut accélérer. Vous faites partie de ces metteurs en scène qui minutent les prises, qui les, demande aux acteurs de les rendre les plus rapides possible.
Oui, et c'est même, je vais même plus loin que ça. Vous savez, quand on a monté la pièce, j'ai fait composer les musiques par Romain Trouillet, qui a aussi fait les musiques du film, qui est un génie, un compositeur de génie. Et je lui ai fait minuter ses musiques avant même qu'on répète. Donc, c'est-à-dire que les acteurs ont dû se caler sur le tempo de la musique et non pas l'inverse. Donc, quand ils sont arrivés en répétition, je leur dis, bah voilà, vous avez 1:30 pour faire cette scène. Et si ça va pas, bah faut accélérer, quoi.
Ça, c'est un truc des grandes comédies américaines classiques, vous le savez. Je sais vous avez été biberonné à ces grands films.
Moi, mon Dieu, c'est Billy Wilder. Et Billy Wilder, c'est le maître et de la comédie et du rythme.
Et du rythme.
C'est un dialoguiste de génie. Moi, j'adore la comédie américaine. J'adore ça.
Wilder, pour mémoire, certains aiment chaud, évidemment. Dans votre film, il y a une scène de Cyrano qui est jouée en vrai, même pour partie dans le vrai décor. C'est la scène finale, avec Cyrano mourant face à Roxane. Vous avez choisi de préserver ce qui est un bijou, évidemment, du théâtre français.
Ouais, en fait, ce que je voulais surtout, c'est rendre cette impression qu'on a quand on est devant un chef-d'œuvre théâtral. En fait, si c'est si bien, on en oublie qu'on est au théâtre. On en oublie la notion du temps, on ne sait pas quelle heure il est, on est juste dans l'histoire. Et comment traduire ça au cinéma ? Comment traduire l'impression qu'ont pu ressentir ces spectateurs pendant cet acte 5 pour voir la mort de Cyrano ? Eh bien, on plonge à ce moment-là dans la scène et on rentre dans le cinéma.
Et donc, il fallait montrer cette scène dans sa pureté originelle. Bon, la suite, Alexis Michalik. la comédie musicale dont vous rêvez, dont vous avez parlé plusieurs fois.
Ouais, c'est pas impossible que ça arrive. C'est pas impossible que je m'y colle. Ouais. Déjà, la sortie du film, hein, c'est quand même le plus important. Et puis, il y a un roman dans les tiroirs qui devrait sortir à la rentrée prochaine, je pense.
Voilà. Et Edmond qui continue sa vie au théâtre.
Oui, absolument.
Pas seulement
au théâtre du Palais Royal.
Oui,
absolument au théâtre du Palais Royal. C'est une merveille de tous les soirs.
Et donc Edmond avec aussi Olivier Gourmet, on ne l'a pas cité, qui joue
Coquelin,
le grand acteur de l'époque.
Clémentine Sélarier, Dominique Pinon, Simon Apcario, Antoine Duléry, Olivier Lejeune, ils sont moult nombreux.
Voilà, Clémentine Sélarier qui joue une Sarah Bernard, admiratrice de Rostand. Merci beaucoup Alexis Michalik.
Merci
Edmond,
beaucoup.
Mercredi prochain dans les salles de cinéma. Merci à vous.
Europe 1.
Et dans un instant, je vous l'avais promis, mais on a interverti les séquences. Un autre film, on parle des Invisibles. Comédie sociale de Louis-Julien Petit avec Noémie Lvovsky, nos invités. Dans un instant, ça parle d'un centre d'accueil pour femmes SDF.
Europe 1.
C'est arrivé demain, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Elles sont passées par la rue, la drogue, la violence ou la prison. Elles n'ont pas de travail, plus de foyer, elles sont déclassées. Allez donc faire une comédie avec ça, eh bien... Ouais. C'est fait. Et vous allez rire avec ces femmes-là. Le film s'appelle Les Invisibles. Bonjour Noémie Lvovsky.
Bonjour.
Vous incarnez une bénévole un peu maladroite, un peu paumée aussi, aux côtés de Corinne Maziero et Audrey Lamy dans ce film dont vous êtes l'auteur. Bonjour Louis-Julien Petit.
Bonjour.
Alors c'est un documentaire à l'origine. C'est un documentaire qui vous donne l'idée et l'envie de tourner avec et sur des femmes.
J'aime bien que vous disiez avec, parce qu'on rit avec ces femmes et pas d'elles.
Oui.
Justement, ça c'est très important de le souligner. Oui, c'est Claire Lajeuny qui avait fait un documentaire. Elle a passé 6 mois dans la rue avec ces femmes. Ensuite, elle a écrit un livre sur la route des invisibles. Et ce livre, elle me l'a apporté, elle m'en a fait un beau cadeau en me disant « Tiens, moi j'ai beaucoup ri ». Et je lui dis « Mais comment on fait pour rire d'un sujet comme celui-ci » Elle me dit « Justement, je ris avec et pas d'eux ».
Alors vous êtes demandé qu'est-ce que pouvait apporter de plus la... une fiction,
se sentir proche
de ces femmes et qu'est-ce qu'on pouvait raconter
bien
dans
sûr,
une histoire.
Ce qui était important, c'était de mettre la comédie comme passerelle entre ce sujet effectivement assez complexe et les spectateurs. Donc apporter ça et puis surtout apporter un lien drôle dans la cocasserie de la vie. Elles s'appellent Edith Piaf, Beyoncé, Simone Veil, Brigitte Macron. Ce sont des prénoms d'emprunt qu'elles ont choisis. Ça existe dans les centres d'accueil.
Ouais.
Et là, on s'en est servi pour regarder. La particularité, c'est que c'est des femmes qui ont évidemment connu la grande précarité ou la rue. Donc, ils ont mis leur vérité au service du film.
Voire pire, vous arrivez à faire rire avec une meurtrière, enfin une femme condamnée pour le meurtre de son mari et qui ne peut pas s'empêcher de raconter son histoire à ses futurs employeurs qui, évidemment, prennent peur. D'où cette scène, cet extrait qu'on va entendre tout de suite.
Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire toute la vérité. Est-ce que... En disant toute la vérité, vous avez obtenu du travail?
Non.
Un logement?
Non.
Donc nous, on ne vous demande pas de mentir, mais juste de faire des omissions.
C'est quoi nos missions?
Quelque chose qu'on ne dit pas. Par exemple, Audrey, elle ne dit pas qu'elle a un problème avec les hommes.
Non, attends, moi, j'ai aucun problème avec les hommes.
Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave, on s'en fout de sa vie. On s'en fout de votre vie. Donc vous pouvez y aller sur les omissions. Bon, et puis tenez-vous droite, parce que ça me rend dingue.
T'as pas eu de problème dans ta vie? Il faut en parler. Autrement, ça reste à l'intérieur et après, t'es bloqué.
Vous voulez bien vous tenir droite?
Noémie Lovski, qui sermonne avec Audrey Lamy à ses côtés, qui sermonne Chantal, qui s'appelle dans la vraie vie Adolpha. Et c'est sa vraie histoire. Alors moi, je l'ai découvert après avoir vu le film. C'est sa vraie histoire. Elle a vraiment tué son mari violent.
Ouais, exactement. Et,
pour se sauver.
Pour se sauver.
Enfin, il l'aurait tué.
Ouais. Voilà. Et elle est partie en prison, elle a fait 11 mois. Elle dit « Ah, la juge, elle m'aimait bien ». Moi, j'avais écrit ce personnage et j'ai rencontré Adolpha Van Meyrag. Ce qui a été complètement dingue de me dire qu'elle existait. Et elle a créé des scènes absolument formidables dans cette véracité. Je crois que quand on est réalisateur, on cherche à être crédible. Moi, je cherche à être vrai. Alors, elle nous a perturbés, touchés, émus, fait rire, parce que c'est un plan, une prise.
Parlez-nous de votre jeu et de votre travail avec ces femmes-là, Noémie Lovski.
Avec Louis Julien et ces femmes. On tournait à Tourcoing, on avait froid. On était dans un décor glacé. On était souvent toutes ensemble, des femmes ensemble, regardées par cet homme, qui est Louis-Julien Petit. Mmh. Très, très bien regardé, vraiment très bien regardé, sans hiérarchie. C'était un regard sans hiérarchie entre les comédiennes qui avaient déjà joué et les comédiennes qui jouaient pour la première fois, ces femmes qui ont... dans la vraie vie, comme vous dites, connu la grande précarité, qui sont aujourd'hui toujours précaires, mais stabilisées, comme on dit. Et le froid et le regard de Louis-Julien, les conditions de tournage comme ça, un peu physiquement, un peu rudes, et surtout la bienveillance et l'absence de hiérarchie dans le regard de Louis-Julien ont créé une vraie grande camaraderie entre nous. Ça a créé un vrai groupe, quoi. Et ces femmes, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Et ces femmes qui jouaient pour la première fois et qui atteignaient un niveau de vérité dans le jeu incroyable, nous tiraient, nous, les comédiennes qui avions déjà joué, vers le haut. C'est-à-dire que on pouvait. C'était comme quand on joue avec un enfant, par exemple, elles ne sont pas des enfants, hein, mais ces femmes-là, mais quand on joue avec un enfant, il y a tellement pas de triche dans ce que fait un enfant, et ça peut être très 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 mauvais, ou alors quand c'est bien, c'est génial, il n'y a pas d'entre-deux. Et ces femmes sont des actrices absolument géniales, et du coup, nous, on ne pouvait absolument pas se servir d'un savoir-faire ou d'une expérience, ou non, on était obligé de remonter.
Et votre parole là a du poids, Noémie Lovski, parce que c'est exceptionnel. J'ai pas seulement un cinéaste et une actrice, j'ai deux cinéastes pour mémoire, Les Sentiments, Camille Redouble, etc. Donc c'est aussi votre regard de cinéaste sur le travail de Louis-Julien Petit qu'on entend. Comment diriez-vous, paradoxalement, c'est un film de femme qu'il a fait, non?
C'est un film de femme, oui.
Mais qui parle de l'homme avec un grand H, j'espère. Là, oui. C'est un film de femme.
C'est un film de femme parce qu'on est un groupe de femmes. Et le travail de Louis-Julien, il m'a vraiment épatée. C'est-à-dire que moi, quand je suis sur le plateau, je n'ai pas un regard de cinéaste. Je suis
Actrice.
Juste actrice au service du metteur en scène. Et voilà, je cherche pas à prendre un recul de cinéaste. Mais... après coup, je me rends compte à quel point l'énergie de Louis-Julien, et il a une il connaît très 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 bien ce dont il parle. Il est très très documenté, très. Il a un regard sur chacune d'entre nous. Là, j'étais vraiment impressionnée parce que on était parfois un groupe de 10, 15, 20 femmes, et il savait qui on était chacune. Et il nous parlait différemment à chacune. Et
et ça faisait cette documentation, cette réflexion qu'il avait sur son sujet faisait qu'après il pouvait nous laisser cette connaissance de chacune d'entre nous aussi. Après, il pouvait nous laisser complètement libres et improviser à l'intérieur des scènes. Voilà, ce que vous entendez, ce que vous avez entendu là, il y a une grande part d'improvisation, mais tellement travaillé avant. Voilà.
Ouais, c'est un film d'amour, d'humour et d'humain.
Noémie Lvovsky aux côtés de Corinne Maziero et Audrey Lamy dans ce
et Déborah,
film de...
Pardon, et Déborah Lecoumouna.
Dans ce film de Louis-Julien Petit. Les Invisibles, mercredi prochain sur les écrans. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous en parler.
Merci à vous. Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé demain dans 5 minutes sur Europe 1. Moins de 5 minutes, le grand rendez-vous. Bonjour Alain Juan.
Bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Nous allons évidemment lui demander sa réaction après les nouvelles scènes de violence. Hier à Paris, notamment l'exfiltration d'un autre ministre, Benjamin Griveaux.
A tout à l'heure. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.